pourrait faire des bruits d'animaux aussi dans le générique.
Miaou.
Mmh. Un chien, un cochon.
Il fait les oiseaux, tu fais bien.
Du verre dans les oreilles.
Je pense qu'on aura un super générique.
Donc du coup, on s'est dit que ce serait mieux en allant dans les fermes.
Avant, il y avait des abeilles qui assuraient notamment la pollinisation et leur renouvellement. Et... Mais il s'avère que les essaims sauvages, il n'y en a plus. Quoi. S'il n'y a plus d'apiculteurs pour assurer le renouvellement, ben, il n'y a plus d'abeilles hein, aujourd'hui. Quoi. C'est quand même un fait nouveau de ces dernières années. Quoi. Ouais, c'est ça, on fait de l'élevage, on multiplie les souches. Mais l'abeille, aujourd'hui, sans l'apiculteur, il n'y en a plus, quoi.
Regard fixé au loin, barbe de quelques jours et légère allure de marin échoué, Jean-Jo n'est pas réputé dans le Cantal pour être un grand bavard. Mais puisque tout le monde a son mot à dire, cet apiculteur de 52 ans a souhaité se prendre à notre jeu sonore, sans doute comme un défi personnel.
C'est donc dans les bourdonnements de ces 170 ruches que notre projet s'est achevé. Et quoi de plus beau que de finir cette aventure sur une note sucrée de miel, dans la verdure préservée du Cantal, et au contact d'une profession au carrefour de nombreux enjeux environnementaux.
Alors si comme nous au départ vous croyez encore au mythe de l'abeille à moitié sauvage à qui l'on va voler le miel une fois par an, ouvrez grand vos oreilles.
Et ce matin c'est quoi que tu voulais contrôler du coup dans tes ruches?
J'ai essayé de contrôler la ponte et puis de leur redonner de la place en leur donnant des cadres, en augmentant le volume de la ruche, qu'elles aient de la place pour stocker un peu de miel quoi.
L'outil indispensable, alors c'est quoi exactement du coup?
C'est l'enfumoir. Sans ça, on n'ouvre pas une ruche. Hein, pour prévenir les abeilles.
Qu'est-ce qui fait que ça calme autant les abeilles hein?
Ben disons que ça simule un petit peu comme s'il y avait le feu dans la ruche, quoi. Donc... Elles vont se jeter sur leur miel en fait, se gorger de miel. Et les abeilles, quand elles sont gorgées de miel, elles sont extrêmement douces. Quoi. Elles sont très douces, oui. Bon, on va commencer. Alors, je me mets sur le côté pour ne pas déranger leur envol. Quoi. Je donne un petit coup de fumée pour les prévenir. Et ensuite... J'enlève le couvre-cadre et je vais redonner un petit coup de fumée. Donc là, il y a le temps. C'est tranquille. Et je passe à une autre. Voilà, celle-là, par exemple, c'est aux trois quarts plein. Donc il y a un cadre là. Qui est bien operculé, d'ailleurs la reine est montée dans la hausse, ça a commencé à pondre. Là c'est parfait ça, l'apiculteur il est content quand il voit une ruche comme ça. Quoi. C'est une reine de très bonne qualité là. C'est signe d'une reine jeune quoi. Et là je vais aller chercher une autre hausse que je vais poser dessus quoi, pour agrandir le volume de la ruche quoi.
Une ruche comme ça, ça représente combien d'abeilles?
C'est difficile à apprécier. 50 000 abeilles à peu près. Une ruche qui est très forte, ça peut aller jusqu'à 100 000 abeilles. Par contre, en sortie d'hivernage, il y a 30 000 abeilles, c'est déjà bien, quoi. Et voilà. Et je remets le toit. Et je passe à une autre.
Là, c'est quoi comme idée?
C'est un tout fleur ici. Hein. Bon, là, je vais leur mettre une autohausse, comme on dit. Bon, mes parents étaient agriculteurs, une petite ferme en Touraine, quoi. Et ma mère m'a dit un jour, comme ça, bon, ton père a besoin de toi. Bon, j'avais d'autres idées. Pas dire que... Pensais vraiment à reprendre le métier de mon père et bon, j'ai pas trop réfléchi. Bon, ça a coupé court un petit peu à toutes mes. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai pris la suite en tant que chef d'exploitation, comme on dit, quoi, maintenant, quoi, comme on disait aussi il y a quelques années, quoi, de. J'avais 21 ans, quoi, donc et on faisait, bon c'est de la polyculture élevage, donc on faisait de la du maïs, du blé, c'est pas par, je sais pas comment expliquer ça, bon, j'ai un petit peu gobé tout ce qu'on m'a enseigné aux écoles d'agriculture, les engrais, les traitements. Puis, je sais pas, quelque chose n'allait pas quand même. Hein, et... Ouais, je faisais vraiment un rejet de tout ce qui était... Ouais, tout ce qu'on appelle maintenant le productivisme, quoi. C'était... Bon, c'était comme ça, quoi. Productivisme, chimie, et, enfin... Et... Donc voilà, j'ai cessé mon activité en Touraine pour venir m'installer ici, dans ce petit coin de paradis, enfin je sais pas trop, qui est quand même assez préservé au niveau de l'environnement, quoi, qui est... Bon, il n'y a pas de culture, c'est quand même... Il y a des petites rivières, il y a des petits ruisseaux, il y a des petits murets, c'est un pays un petit peu de bocage qui me rappelait un petit peu tout ce dont j'ai foutu en l'air, comme tous les autres agriculteurs, à supprimer les haies et faire du drainage et ouais, moduler le paysage un petit peu trop à une petite bosse entre parenthèses, quoi. Donc, voilà, bon, ben, je dis, la décision est prise, bon. Et puis, c'est vrai que l'apiculture, en fait, ça revenait un petit peu constamment, quoi. Mais bon, j'y connaissais rien, j'avais même pas de ruche. J'ai fait une formation de 6 mois, en fait. Puis, je me suis installé petit à petit avec les années, quoi. Bon. La grange, on l'a toute refaite avec des copains. Là, les dernières installations, c'est pareil, quoi. Ça a été fait sous forme d'échange. Donc, les investissements étaient quand même assez réduits, quoi. J'ai essuyé un petit peu toutes les erreurs que j'ai faites, parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas un métier en 6 mois à la suite d'une formation. Bon, j'aurais dû essayer de... Mais bon, c'est comme ça, hein, je me suis installé, et voilà quoi. Maintenant, j'arrive un petit peu mieux à m'organiser, bon. Mais bon, je suis quand même... Par rapport à l'apiculture professionnelle, bon. J'ai du mal à me qualifier un peu de professionnel, quand même. C'est... Bon.
Je considère quand même que l'agriculteur à part entière.
Si je me considère comme agriculteur à part entière, bah je sais pas trop en fait. Hein. Je sais pas comment on peut se situer. Enfin, un produit qui vient de la terre, quoi. C'est un peu comme des. comme l'agriculteur qui va cueillir des framboises ou des fraises ou des légumes Ouais, on est agriculteur, oui, c'est vrai, quoi, mais je trouve que le terme... Ouais, je sais pas comment expliquer ça.
Retour au rucher, où nous allons cette fois contrôler les ruches d'élevage. Et pour cela, nous avons engagé un reporter hors pair qui a su, par ses questions pertinentes et ciblées, nous aiguiller sur l'élevage des abeilles. Il s'agit tout simplement de Mathis, 5 ans, le fils de Jean-Jo.
Elle est pas bien forte.
Non, elle est faible. À son moment, tu sais, en moyenne, elles sont faibles.
En plus, il y a des faux bourdons.
Mais le couvain est magnifique, tu vois, Mathis.
Tu veux voir le couvain?
Regarde.
Tu veux voir?
Tu vois, il est bien compact.
Ouais.
Tu vois, elle est faible, mais c'est une ruche qui va faire un développement extraordinaire. Même si elles sont faibles, elles ont tout l'été pour se développer et faire des belles ruches pour la saison prochaine. Alors celle-là, elle est plus forte. Ah ben celle-là, c'est magnifique. Tu vois, c'est un couvain qui est magnifique.
Tu peux voir s'il est magnifique.
Tu vois.
Ah ouais, il est magnifique. Mais comment tu sais qu'il est magnifique?
Parce que tu vois, la ruche présente un autre aspect. Tu vois, elles ont bien étiré la cire. Tu vois qu'il y a du miel. Tu vois que ça présente beaucoup mieux.
La reine, des fois, elle part de la ruche.
Oui, quand il y a essaimage. Et si elle s'en va et qu'il n'y a pas essaimage, ça veut dire que c'est plus grave. Ça veut dire qu'il y a désertion.
Quoi,
ça veut dire qu'elle quitte la ruche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la ruche. Soit de la maladie, il y a trop de varroa ou...
C'est quoi le varroa?
C'est le petit acarien qui se développe à l'intérieur de l'alvéole avant qu'elle naisse et donc les abeilles naissent atrophiées. Mais bon, c'est... la problématique.
Et c'est quoi que toi qui t'a tant séduit dans les abeilles?
Ce qui m'a séduit?
Ouais.
Je sais pas. Ce qui m'a séduit, tiens. Bon, déjà... c'est quand même un cadre qui est super agréable, c'est toujours au calme, puis on est obligé d'être calme, je veux dire. Même si on est énervé, ou même si on a des tracas, quand on est sur un rucher, ben, on suit le mouvement de l'abeille, en fait. Hein. On est obligé, quoi. Parce que si on est un petit peu tendu, je veux dire, avant de le dire, est vite fait. Ouais, c'est quand même magique, quoi. Hein. Non? Mais c'est pas un insecte, c'est tout un monde, l'abeille. C'est tout un monde qui garde son mystère.
Ce serait pas aussi mystérieux, justement, cette période de temps, tu penses?
J'en sais rien. Depuis la nuit des temps, en fait, il y a des abeilles, hein, pour la pollinisation entre autres, et puis pour le miel que récoltaient même les hommes préhistoriques. Bon, l'abeille a survécu à toutes les époques, quoi. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on a des pertes de colonies. Normalement, bon, 10 à 15% de pertes hivernales, c'est quasi normal, quoi. Tous les ans, c'est plutôt 30-35%, donc on passe une énergie considérable à chaque année, comme on a vu hier, toutes les ruchettes, en fait, c'est pour renouveler le cheptel, quoi, pour pallier aux pertes, quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément qu'il y a plus de maladies. On en trouve un peu des ruches malades. Il y a des maladies hein, chez l'abeille, mais pas autant que ça, quoi. On trouve au printemps, là, même des ruches qui désertent complètement la ruche. Je veux dire, c'est complètement anormal, une ruche qui déserte son couvain, quoi. C'est pas normal du tout, quoi. Alors bon, des choses inexpliquées, inexplicables. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années, des années de sécheresse, des années extrêmement humides. Et puis aussi, ce qui peut... Je pense que c'est tout un ensemble de choses, quoi, que... Mais ici, bon, on se pose des questions parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y ait une pollution, quoi. Bon, on a retrouvé du lindane sur des feuilles de frêne à 1000 mètres, hein. Bon, j'en sais rien.
C'est quoi, du lindane?
Du lindane, c'est un produit chimique hein, qui est utilisé pour les... Je crois que c'est les taupins, les petits vers, là, pour le maïs, quoi. Donc, voilà, quoi, je me pose des questions, je fais un petit peu des parallèles comme ça. Il y a le varroa, ça c'est certain, on y lutte, on essaie de comprendre un peu. Bon, on espère que petit à petit l'abeille va s'adapter un peu et avoir des résistances par rapport à ce petit acarien. Bon, pour rester honnête, je pense qu'on peut se poser 1000 questions et essayer d'y répondre, quoi. Mais bon, moi je suis un apiculteur, hein, j'élève des abeilles, et moi je suis pas un spécialiste.
Et les spécialistes s'en posent aussi des questions. Et pour cause, cela fait maintenant une vingtaine d'années que ce phénomène s'observe partout dans le monde. Gaucho, cruiser, frelon d'Asie, varroa, changement climatique, uniformisation des races d'abeilles et baisse de la biodiversité cultivée, allergie au pollen, la liste des facteurs est longue et incertaine. Mais la vraie question est là. Qu'engendrerait la disparition des abeilles?
Une abeille butine près de 700 fleurs par jour, jouant ainsi le rôle de cupidon du monde végétal. Bien que l'abeille ne soit pas le seul insecte pollinisateur, on estime que sans elle, il faudrait s'attendre à voir disparaître 60% de nos fruits et légumes. Et cela sans compter les plantes que l'on ne consomme pas mais qui participent à cette bonne vieille biodiversité. Dans certaines régions du monde, comme le Sichuan en Chine, la pollinisation se fait désormais à main d'homme. À l'échelle mondiale, on estime le coût d'un tel travail à 153 milliards d'euros. Alors messieurs les dirigeants, réfléchissez-y à deux fois quand vous nous parlez d'économie.
Mais revenons à nos moutons, enfin, nos abeilles. Outre la pollinisation, elles nous fournissent aussi et surtout ce délicieux nectar des dieux. Et de la ruche au pot, il y a tout de même un petit peu de manutention.
Attention, papa, ça pèse.
Papa, pourquoi tu ne sers pas du truc comme ça qui est énorme là?
Ah non, c'est trop encombrant.
Ça avance pas, ma femme, là.
Ouais, hop. Tu restes là?
Tu veux extraire quoi là?
La bandelle.
La partie là que dont tu vas extraire le miel, c'est la partie supérieure de la ruche en fait.
Voilà, c'est ça, on appelle ça une housse en fait. Hein. Ça fait la même dimension que la ruche. Par contre, ça fait une demi-hauteur, quoi. C'est un grenier à miel, en fait, hein, dont elles n'ont pas besoin de forcément, quoi, en fait. Tout le corps de la ruche, on n'y touche pas, c'est pour elles, hein, pour leur propre développement. Et une hausse bien pleine, on a presque 20 kg de miel par hausse, quoi. Ce qui fait que c'est impossible pour elles qu'elles consomment 80 kg de miel, quoi.
Papa,
la partie que toi tu as retirée...
Papa.
Oui. On me parle.
Il y a un cadre qui est passé dans l'extracteur et puis il y avait du couvain sous bourdon.
Ah oui, ça arrive des fois. Mais je retire l'opercule quoi, avec ce genre de couteau quoi, qui vibre. Et ensuite, le miel, il peut, avec la centrifugeuse, enfin l'extracteur, par la force centrifuge, il sort des alvéoles à température ambiante. Quoi. Oui, on va le faire. Bon, là, je mets des câbles dans l'extracteur, en fait. Hein. Voilà, je les équilibre. Et voilà, c'est plein, on met en route. Mais il va couler. dans la cuve. Et après, une fois la cuve qui est pleine, après je la reprends avec la pompe que je stocke dans des cuves un peu plus grandes, des maturateurs qu'on appelle, où je laisse le miel se maturer une dizaine de jours. La cire remonte, quoi, en fait. Quoi.
Et puis après, on met en pot. Mmh. La machine pour mettre en pot fait ça. Mmh.
J'aime bien cette couleur là de miel de Bourdaine. C'est ambré, plutôt un peu rouge, mais c'est difficile à définir. Hein. C'est roussâtre, quoi. C'est comme ça pour goûter. Ouais, il est extra. Hein. Mmh. Ouais, il est fin, on sent qu'il est vraiment. Ouais, il est parfait, quoi. Mmh. L'agriculture, pour moi, elle est rentrée dans un schéma productiviste, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et je trouve qu'on a quand même ce privilège en apiculture même si on a besoin d'électricité pour la miellerie, même si on a besoin de gasoil pour aller sur les ruches, on n'a pas trop de... On ne dépend pas trop de l'extérieur quand même, comme l'agriculture en fait. Hein. Bon, je ne suis pas en bio, hein. Mais je suis dans un refus du... Enfin, c'est intrinsèque à moi, c'est intérieur, dans un refus du productivisme. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est comme je disais tout à l'heure, je consomme de l'énergie, je consomme du gasoil. Un petit peu... parce qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Mais non plus, je ne suis pas rentré dans un schéma d'apiculture. Déjà, l'apiculture bio, il y a des règles, il y a des cahiers, il y a des contrôles. Moi, je produis un miel, j'ai pas de mention bio, j'ai pas de cahier des charges à tenir, et puis... puis c'est comme ça, j'aime pas les règles. Mais cela dit, on se comprend qu'il faut des règles, qu'il faut des cahiers des charges et un tas de... Même... C'est un minimum maintenant, aujourd'hui, quoi. Déjà pour le consommateur, je dis pas au consommateur que je suis bio, hein. Les gens qui me connaissent ou qui achètent mes produits, c'est qu'ils en sont contents. Mais... Mon activité apicole dépend plus à mon état d'esprit que j'ai... Que j'essaie d'être accord à... Le plus avec moi-même, quoi. C'est pas simple des fois.
Nous avons tous nos contradictions que nous tentons de conjuguer au mieux avec nos idéaux, nos utopies et tout simplement notre nous intérieur. Merci à toi donc Jean-Jo de nous avoir confié les tiennes en toute simplicité.
Et puis on espère de notre côté que cet épisode aura permis à certains de mesurer la révoltante contradiction, inconjugable cette fois, entre l'accomplissement de ton métier et la santé écologique actuelle de notre planète. Ce débat commence à mobiliser, donc gardons espoir.
Nous tenons également à remercier l'association La Jonquille, groupement de producteurs fermiers d'Auvergne, qui nous a permis de rencontrer Jean-Jo.
L'épisode que vous venez d'entendre a été entièrement brodé à la main et réalisé avec des techniques artisanales par Goulven Maréchal et Alex Ellis.
Nous tenons à signaler qu'aucun paysan n'a été maltraité durant ce tournage.
Et si vous voulez en savoir plus sur notre projet, consulter des photos, des épisodes inédits et des bonus réalisés dans d'autres exploitations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.duverdanslesoreilles.fr.
Et voilà, notre périple touche à sa fin.
9 mois de vadrouille.
Des centaines de rencontres durables ou éphémères.
Plus de 20 fermes visitées.
Près de 20 000 km parcourus.
Plus de 80 heures de son enregistrés.
Sans compter toutes les discussions passionnantes hors micro.
Ni le nombre d'heures rivées à l'ordinateur à retransmettre au mieux les sages paroles de nos hôtes.
9 mois donc de découverte des campagnes françaises, des réseaux alternatifs et surtout, oui surtout, de ces valeurs paysannes, ces valeurs universelles qui pour nous n'existaient plus que dans les contes pour enfants.
Eh bien non, ça existe encore, ça revient même, ça s'imprègne au fond de nous et surtout, on se rend compte que oui, c'est possible de vivre avec. Possible et pas si compliqué.
Oui, c'est possible de vivre dans le respect des autres et de la nature, dans le respect de soi-même, et pas besoin d'aller voir en Bolivie ou au Népal, tout proche de chez nous, tout proche de chez vous, chers auditeurs aux oreilles bourgeonnantes, des initiatives comme celle-ci prennent forme, s'enracinent et traversent le fil du temps.
À l'heure de la taxe carbone, du recyclage des téléphones portables, de l'économie d'énergie et de la PlayStation 3, il nous paraît capital de donner la parole à ces paysans, véritables acteurs du monde d'aujourd'hui et de demain.
Ainsi, nous espérons ouvertement vous avoir apporté de verdoyantes minutes de plaisir à l'écoute de nos reportages, des envies de découverte et plus seulement d'oreilles vertes, une once d'espoir, un petit soupçon de révolte et surtout, oui surtout, des images sonores plein la tête.
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu et accompagné cette aventure. Toutes les radios partenaires, trop nombreuses ici pour être citées, Défi Jeunes, Rennes Métropole, l'association La Nef, le réseau des Civam et des Gab, et bien entendu à nos parents et à tous nos hôtes, sans qui, bah, au fond, on n'aurait pas fait grand-chose.
Merci aussi à tous ces autres projets qui fourmillent sur les mêmes plates-bandes que les nôtres et qui, eux aussi, nous ont fait rêver et imaginer un autre chose. Chemin faisant, Ouvert-Tour, Les Cyclopaysans, Vers un retour à la Terre et tous ces autres projets qu'on espère un jour voir se concrétiser.